Alors, bonjour frères et sœurs. Le micro fonctionne. Ça, c'est une chose de faite. juste me présenter rapidement. Premièrement, oui, je viens de l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda, qui justement m'a mandaté de vous saluer chaleureusement. Ça fait 7 ans et demi environ que je suis là. Je suis en ce moment en formation pastorale, candidat pour devenir ancien à la fin du mois. Et j'ai vu que les 2 dernières personnes qui sont venues enseigner ici, les 2 derniers dimanches sont assez chers pour moi. Il y a Patrice Major, qui est mon beau-père, le père de mon épouse, et Jean-Sébastien Morin, il a été mon pasteur pendant 2 ans. C'est lui le premier qui m'a amené à prêcher. Donc, vous avez eu des bons pasteurs invités dernièrement. J'étais content de voir ça. Sinon, aujourd'hui, on va prêcher sur Matthieu 6. Les versets 5 à 13. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous inviterai à tourner tout de suite dans la parole, dans Matthieu 6, versets 5 à 13. Dans ce passage, on voit la prière du Notre Père que beaucoup de personnes connaissent certainement. On va pas prêcher nécessairement par rapport à comment nous, on doit prier cette prière-là, mais on va voir comment Jésus, au travers de cette prière-là, vient nous présenter notre Père. Comment que Jésus, au travers de toute sa vie, il est venu nous montrer qui le Christ est, qui le Père est. Mais particulièrement au travers de cette prière-là, c'est là qu'on va se pencher ce matin. Alors, je vous invite à tourner si vous n'êtes pas encore là, puis ensuite, on va prier. Donc, Matthieu 6. 5 à 13. Lisons. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prions. Père éternel, c'est à toi qu'on s'attend ce matin. C'est toi qu'on a besoin de connaître, de voir. On a besoin de vivre en intimité avec toi, Seigneur. On veut te remercier parce que tu nous permets cette si grande grâce de vivre en communion avec toi, de vivre en communion les uns avec les autres, de te connaître, de te voir agir, de savoir que tu es vivant. Oui, Seigneur Jésus, tu es mort à la croix. Mais tu es ressuscité. Et tu règnes maintenant éternellement, assis à la droite du Père. Alors, Seigneur, on t'en prie, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles ce matin, parle-nous. On a besoin de ta parole, on a besoin de ton esprit. Révèle-toi encore une fois et sois magnifié, sois glorifié au travers de ton peuple. Amen. Alors, au travers du texte qu'on vient de lire, on va voir 2 points. Le premier point, c'est l'enfant qui vient à son père. Et le deuxième point, c'est l'enfant qui parle à son père. Le titre de la prédication, c'est « L'enfant qui connaît son père ». Alors, dans la première partie du texte, des versets 5 à 8, on voit Jésus qui met en garde contre une mauvaise approche à la prière. Au travers des versets, il montre un cadre au travers duquel on devrait s'approcher de notre père dans la prière. J'aimerais juste le relire pour que ce soit frais dans notre tête, ce passage-là, des versets 5 à 8. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Au travers de ces quelques versets-là, est-ce que vous voyez à quel point Dieu veut être dans une relation intime avec nous? À quel point il veut qu'on vienne le rencontrer dans le lieu secret, qu'on vienne loin des distractions, loin de toutes les choses qui peuvent amener nos regards ailleurs, loin des possibilités de s'enorgueillir. Quand on prie devant les gens, on sait que les gens nous entendent, on peut se taper sur l'épaule, dire « oui, j'ai bien prié ». Mais non, Dieu veut nous amener tout seul avec lui, dans le lieu secret. Il dit, il voit dans le secret, il te le rendra. Il veut nous amener dans l'intimité. Puis il le fait pour qu'on puisse y trouver rien d'autre que notre Seigneur, rien d'autre que notre Dieu, qu'on puisse être unis à lui, qu'on entretienne cette relation de dépendance, d'amour, de grâce de sa part. Puis ensuite, Jésus ajoute que Dieu ne nous demande pas de venir dans le lieu secret simplement pour lui faire des demandes. Pas juste pour qu'on ait une relation de machine distributrice avec Dieu. Parce qu'il dit, il connaît déjà toutes les choses dont on a besoin. C'est vraiment pour nous faire grandir dans cette présence-là de père et fils que Dieu nous appelle à venir dans sa présence. Pour qu'on soit davantage transformé à son image. Comme un père qui désire passer du temps personnel avec son enfant pour que son enfant puisse le connaître plus, qu'il lui enseigne la vie pour qu'il ait une influence dans son développement. Notre Dieu, notre Père veut nous amener seul avec lui pour qu'on puisse le connaître plus. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu comment Dieu nous transforme au travers des prières, seul à seul avec lui. Quand on prie selon sa volonté, nos désirs finissent à s'enligner selon sa volonté. Dieu nous enseigne au travers des prières. Des fois, son esprit peut nous montrer l'ignorance, notre ignorance, des fois notre stupidité aussi face à certaines demandes qu'on peut faire. Mais il peut aussi nous montrer que des situations qu'on vit, qui nous semblent comme une énorme montagne qu'on doit surmonter, mais devant sa grandeur à lui, sont absolument insignifiantes. Il veut qu'on puisse l'expérimenter. Il veut venir changer nos cœurs, nous attendrir, nous permettre de désirer encore plus, l'expérimenter encore plus, être avec lui, voir combien il est meilleur, combien il est plus succulent que toute autre chose qu'on a sur ce monde. C'est près de Dieu qu'on peut vraiment goûter à ses bontés, qu'on peut le connaître, qu'on peut grandir. C'est dans ces temps-là où on est seul avec lui qu'on peut être attentif à sa parole et ses actions dans nos vies. Au verset 7 et 8, Jésus dit qu'on n'a pas besoin de répéter des vaines paroles pour essayer d'attirer l'attention de notre Dieu, espérer qu'il accorde une petite attention à ce qu'on demande. Non. On voit dans l'Ancien Testament plein de peuples païens qui faisaient toutes sortes de choses pour essayer d'attirer l'attention de leur Dieu. On pense à 1 roi 18, quand Élie met au défi les prophètes de Baal, que Baal fasse un miracle devant eux. On les voit crier, on les voit se faire des incisions, on les voit faire tout plein de choses en attendant un signe de leur Dieu. Mais c'est pas comme ça que notre Dieu agit. Non. On n'a rien à faire pour obtenir l'attention de notre Dieu. Dès qu'on parle, il entend absolument toutes nos paroles. On n'a pas besoin de faire d'incantations. On n'a pas besoin de faire des prières répétitives. Alors, frères et sœurs, en lien avec cette belle vérité, j'aimerais ça vous exhorter à ce qu'on prenne toujours connaissance que dès qu'on ouvre la bouche pour prier à notre Dieu, il nous entend. Qu'on puisse lui parler avec sincérité, avec révérence, sachant qu'on s'adresse, oui, à notre Père, mais au Dieu de l'univers, au Dieu créateur de toutes choses, le Dieu infini et immuable. Alors, parlons avec crainte et révérence. Portons attention aux mots qu'on utilise dans nos prières pour ne pas utiliser des paroles vaines. Continuons de demander à notre Seigneur et à son Esprit de nous enseigner à prier. Au verset 8, Jésus continue en disant que Dieu, notre Père, connaît nos besoins avant même qu'on les demande. C'est incroyable de penser que quand on s'approche de Dieu, ce Dieu-là si grand et infini, on n'a pas besoin de le soudoyer. On n'a pas besoin d'espérer, de faire des choses pour réussir à avoir des cadeaux de sa part, comme que des enfants, des fois, pourraient venir voir leurs parents et dire « Papa, maman, je vais aller chez mon meilleur ami. Cette semaine, je vais faire mon lit tous les matins et ranger ma chambre. Est-ce que tu peux me permettre, s'il te plaît? » On n'a pas besoin de faire ça avec notre Dieu. Notre Dieu, il sait ce qu'on a besoin et il veut nous le donner. Il veut nous donner ce dont on a besoin. Qu'on aille à lui simplement pour le rencontrer, pour l'exalter, pour épandre notre cœur devant lui. On n'a pas besoin de venir avec des formules toutes faites. On n'a pas besoin de réciter des chapelets. On n'a pas besoin de faire des longues prières pour capter son attention. Notre Seigneur pense à nous. Comme qui est écrit au psaume 40, verset 18. « Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. » Ton Seigneur et ton Dieu pensent déjà à toi. Tu n'as qu'à élever la voix ou prier dans ton cœur. Il t'écoute déjà. Il sait ce que tu as besoin. Face à cette vérité, on pourrait se dire « Mais si Dieu sait déjà ce dont j'ai besoin, à quoi ça sert de prier? » J'aimerais vous partager un exemple qui n'est pas un exemple exact, mais qui, je crois, représente un peu comment Dieu veut agir avec nous. Parce que Dieu se présente à nous en tant que Père. On sait que Dieu n'est pas notre Père biologique, mais il se présente au travers de la Bible de tant de manières qui sont un grand mot qui est anthropomorphique. C'est-à-dire que Dieu se présente à nous de manière humaine pour qu'on puisse le comprendre. Puis justement, quand il dit qu'il est notre Père, mais c'est pour qu'on puisse comprendre, comme la relation qu'on a avec un Père, avec notre Père, comment qu'il veut agir avec nous. Alors, j'ai une fille qui va bientôt avoir 4 ans. Puis quand je la vois qu'elle est en train de faire un jeu, qu'elle a besoin d'aide, qu'elle est en train de réaliser qu'elle a besoin d'aide, elle n'est plus capable de faire ce qu'elle veut faire, souvent elle va commencer en chignant un peu ou en pleurant un peu, puis je vais attendre qu'elle se tourne vers moi et qu'elle dise « Papa, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ton aide. » Souvent, je ne vous cacherai pas que je le sais d'avance qu'elle va avoir besoin de mon aide. Je vois qu'elle est en train de se mettre un peu dans le pétrin, dans ce qu'elle fait, avant même qu'elle les réalise. Mais pourquoi est-ce que je ne vais pas au-devant d'elle avant qu'elle me demande? Pourquoi est-ce que je ne vais pas, dès qu'elle chigne un peu, aller arranger les choses? Mais parce que si je ne faisais pas ça, si je n'attendais pas, elle ne se développerait pas. Elle n'apprendrait pas Elle ne deviendrait pas débrouillarde, mais encore plus, elle n'apprendrait pas à me demander de l'aide. Elle saurait juste que elle n'a rien à faire, puis les choses se font tout seul. Mais aussi, ça fait plaisir à mon cœur de père quand je l'entends dire, Papa, est-ce que tu peux m'aider? Parce que je vois qu'elle reconnaît un soutien en moi. Elle reconnaît une assurance. Elle sait qu'avec moi, elle va avoir l'aide qu'elle a besoin. Elle a confiance que je peux quand elle ne peut pas. C'est comme ça avec notre Père. On doit apprendre à avoir confiance que lui peut quand on ne peut pas. Puis on doit apprendre que on ne peut pas, mais lui, il peut en tout temps. Dieu, en tant que notre Père, il veut qu'on grandisse en lui. Il veut qu'on se tourne vers lui, qu'on présente nos besoins pour le découvrir comme étant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu merveilleux qu'il est, celui qui avait déjà tout placé d'avance, même avant qu'on lui demande quelque chose. Dieu veut vraiment nous amener à lui faire confiance, à le reconnaître tel qu'il est. Il veut qu'on voit combien il nous aime, combien il aime être avec nous. Combien il aime quand on vient à lui pour lui parler, pour l'écouter, pour échanger avec lui. Jésus a dit, laissez les enfants venir à moi. Les disciples, ils pensaient que les enfants allaient venir le déranger, mais lui, non, il a dit, laissez les enfants venir à moi. Jésus voulait que les enfants viennent, il voulait les bénir, il voulait les voir, les toucher. Probablement, il voulait jouer avec eux aussi. Alors ne pensez pas, frères et sœurs, qu'on peut le déranger. Il dit, viens à moi. Laissez mes enfants venir à moi. Implorons notre Père, frères et sœurs, en sachant que c'est lui qui nous a premièrement appelés à lui. Et à cause de ça, avançons humblement à lui, avec assurance devant son trône de grâce, sachant qu'il va nous entendre. C'est ce qui conclut le premier point, l'enfant qui vient à son Père. Alors, pour le deuxième point, l'enfant qui parle à son père. Maintenant qu'on a vu comment on peut s'approcher de Dieu, comment on a un libre accès auprès de lui, on va voir dans les versets 9 à 13 comment on doit lui adresser la parole. À qui est-ce qu'on est en train de parler au travers de nos prières? Et de savoir à qui on parle. Ça va venir complètement changer notre relation avec lui. C'est tellement important de savoir à qui on parle. Ce verset-là, justement, ces versets-là qui sont souvent appelés le Notre Père, que la majorité d'entre nous connaissons, pour ceux qui viennent d'un arrière-plan catholique, vous le connaissez comme un verset à répéter, à réciter, à prier à répétition. Mais quand Jésus il dit... Voici donc comment vous devez prier. Il n'est pas en train de dire, voici la prière à répéter. Le voici comment vous devez prier, c'est-à-dire, il est en train de présenter une forme de prière, une forme de comment qu'on doit s'adresser à Dieu. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va regarder cette forme et comment cette forme et ce que Jésus présente vient nous montrer le Père. Alors, relisons les versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. À l'école du dimanche, dans les 2 dernières années, on a passé au travers du catéchisme de la Cité avec les enfants. Puis l'automne dernier, j'avais la question 38 qui demande, qu'est-ce que la prière? La réponse, c'était la prière, c'est ouvrir son cœur à Dieu. C'était la réponse pour enfant. La réponse pour adulte ajoutait, c'est ouvrir son cœur à Dieu dans la louange, la requête, la confession des péchés et la reconnaissance ou l'action de grâce. C'est pas mal les quatre formes de prière qu'on peut faire au travers de toute notre vie. Quand on lit, par exemple, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on y voit une requête et une louange. Ensuite, au verset 11, Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On y voit une requête. Verset 12, Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont fait offenser. On y voit une forme de confession. Dans la première partie du verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. À nouveau une requête. Et on finit au verset 13, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et dans cette partie-là, on voit un mélange d'action de grâce et de louange. Parce qu'au final, quand on dit « car c'est à toi », on fait le lien avec le reste de la prière, puis on dit « on a confiance que tu es capable d'accomplir cette prière-là ». Et ensuite, on le loue en disant « qu'à toi appartienne le règne pour les siècles et les siècles ». Donc, à cause de ça, on veut le louer. Puis c'est ce qui amène justement le mélange entre louange et reconnaissance d'action de grâce. Donc, au travers de ce modèle de prière-là, Jésus vient nous présenter qu'est-ce que Dieu veut faire pour nous. Il vient nous présenter aussi notre Père dans sa personne. C'est seulement possible de prier notre Père si on sait qui est notre Père, qui il est et tel qu'il se révèle au travers de son évangile. Dans cette prière-là, Jésus nous enseigne à nous confier en Dieu comme notre papa, comme notre père. En plus, il nous montre la suprématie de Dieu. Il montre aussi une simplicité d'approche. Il montre en même temps une révérence, une dépendance. Et il glorifie la sainteté de Dieu. Il montre à quel point on a besoin d'être transformé à son image. Alors, on va décortiquer ces prochains versets pour connaître notre Père davantage, savoir comment cette connaissance de Dieu peut nous permettre d'avoir une encore meilleure relation avec lui. Alors, le verset 9, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Des fois, on a perdu ou oublié comment c'est spécial, comment c'est unique de pouvoir s'adresser à l'Éternel et lui dire « Mon Père ». C'est quelque chose d'assez extraordinaire quand on y pense, de pouvoir parler au Créateur de l'univers, à celui qui est tout-puissant, celui qui est notre législateur, celui qui aurait dû nous condamner, celui qui est notre juge. C'est spécial de pouvoir dire « Mon Père ». Lui nous a créés à son image, puis on l'a rejeté. Mais maintenant, il nous recrée et nous permet de l'appeler notre Père. Nous qui étions ses ennemis, il nous a fait devenir ses fils et ses filles. Il est devenu notre bienfaiteur. Il est devenu celui qui veille sur nous, celui qui nous aime le plus profondément, le plus tendrement, par Jésus-Christ, qui s'est fait notre frère. C'est comme ça qu'on peut maintenant l'appeler notre Père. On doit tout de même garder en tête qu'il n'est pas comme notre Père terrestre. Nos Pères terrestres sont des pécheurs, sont imparfaits. Ils aiment leurs enfants, oui, mais ils demeurent égoïstes, ils demeurent limités. Dieu, lui, est notre Père qui est aux cieux. Il est celui qui règne sur toutes choses. Il est celui qui possède toute autorité, celui qui est supérieur à tout. C'est à lui qu'on s'adresse. On ne peut pas juste lui parler comme s'il était notre ami ou notre petit papa. Non, il est notre Père qui est aux cieux. Celui avec qui on ne sera jamais son vis-à-vis. Il est notre roi, il est notre maître. Il est celui devant qui on doit s'agenouiller. Celui qui est au-dessus de toutes choses. Rien ne peut le limiter. Il est dans les cieux. Et quand on dit que ton nom soit sanctifié, qu'est-ce que ça veut dire? La sanctification, c'est de mettre quelque chose à part pour une raison. Donc, quand on prie que son nom soit mis à part devant tous, on prie que son nom soit glorifié, que sa gloire soit manifestée aux nations. Au final, on prie, on veut que son nom soit glorifié dans nos vies et dans le monde entier. Donc, on demande à Dieu de venir se sanctifier en nous, de faire son œuvre en nous, de nous changer. Mais on le fait aussi en disant, « Seigneur, on veut voir ta gloire se manifester dans le monde. On veut voir ton royaume avancer. » Dans cette prière-là, au travers de cette prière-là, on demande à Dieu de venir changer notre cœur pour rendre nos actions, nos paroles, nos désirs, notre caractère, pour que toutes ces choses honorent Dieu, pour qu'il nous transforme, pour qu'il nous rende zélés pour sa mission. Parce que c'est au travers de sa mission qu'on fait des disciples, qu'on voit d'autres personnes, leur vie être transformée pour la gloire de Dieu, pour qu'il soit encore plus manifesté aux yeux de tous. On veut voir Dieu venir établir son règne, comme qu'on continue de prier au verset 10, qui dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une manière concrète de dire que ton nom soit sanctifié. On prie que Dieu accomplisse sa volonté sur sa terre, que les coupables soient jugés, que Dieu soit sanctifié, que Dieu soit justifié, parce qu'il est saint, qu'il est juste. Dieu ne peut pas être en présence des pécheurs. C'est pour ça que pour qu'il soit sanctifié, pour qu'il soit glorifié, les coupables doivent être punis et les justes doivent être récompensés. C'est là qu'on vient voir la grandeur du sacrifice de Jésus pour nous. Parce que pour que son règne puisse venir sur la terre comme au ciel, il devait régénérer son peuple. Il devait venir s'élever un peuple qu'il sanctifiait. Et c'est ce qu'il a fait au travers de son Christ. C'est ce qu'il fait en chacun d'entre nous. Il nous sanctifie avec lui. Il nous amène avec lui dans sa sainteté. Et à la fin, il va se glorifier de deux manières. En disant, regardez comment je suis bon. Je me suis sanctifié un peuple. Et regardez comment je suis bon. J'ai condamné ceux qui étaient coupables. Ma justice a été accomplie en toutes choses et j'ai répandu ma grâce et ma miséricorde sur un peuple innombrable. Mon règne est établi. Dieu va être magnifié aux yeux de tous. Au verset 11, quand on continue, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Au travers de cette requête-là que Jésus nous enseigne, on voit qu'on peut faire confiance à Dieu parce qu'il peut et il veut nous donner notre pain quotidien. Il veut pourvoir à nos besoins. Comme Jésus enseignait, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus, dans Matthieu 6, 25. Dieu prend soin de ses enfants. Il veille sur nos besoins physiques, sur nos besoins spirituel. Ensuite, Matthieu 6, versets 32 à 34 dit « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Jésus nous enseigne que notre Père, qu'on vient rencontrer dans la prière, connaît nos besoins physiques. Il sait de quoi on est fait. Il sait ce qu'on a besoin pour vivre. Et on peut l'approcher non seulement en sachant qu'il sait ce qu'on a besoin, mais en sachant qu'il veut aussi nous le pourvoir. Alors, ne nous inquiétons pas du lendemain. On peut penser à tant d'histoires, de moments où Dieu a pourvu pour ses enfants. Une histoire qui me touchait dernièrement dans le livre de Jordan Mueller. Si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment un livre qui est exhortant, qui est encourageant, comment on voit l'action de Dieu dans la vie de cette personne. Mais c'est un homme qui a parti plusieurs orphelinats et qui les a fait vraiment par la foi. Il avait la foi que Dieu disait qu'il voulait prendre soin des orphelins. Il a dit, OK, Dieu, si tu veux prendre soin des orphelins, voici des orphelins, prends soin d'eux. Et c'est incroyable de voir comment le Seigneur a pourvu à tant de moments. Puis un moment qui m'a profondément touché, c'est quand un matin, il est arrivé, il y avait une centaine d'orphelins et il n'y avait plus de nourriture. Il n'y avait absolument plus rien pour les nourrir. Et le matin, il est arrivé, il a vu les personnes qui travaillaient dans l'orphelinat, il a dit, « Je m'en vais prier, installer la table et installer les enfants à la table. » Il s'est retiré, lui et quelques autres, ils ont été priés. Puis pendant qu'ils priaient, à un moment donné, ils ont entendu quelqu'un frapper à la porte. Ils ont ouvert la porte. C'était le marchand de lait qui était là. Le camion était devant l'orphelinat. Il venait de tomber en panne devant l'orphelinat. Et il a dit, « J'ai pas le choix d'écouler mon lait, sinon je vais tout perdre. Est-ce que je peux vous le donner? » Et là, il y avait tout le lait nécessaire pour nourrir les enfants. Et ensuite, il y a eu quelque chose aussi avec le boulanger, là, je ne me souviens plus exactement des détails, mais au final, ils ont eu un repas complet, les enfants, dans cette journée-là. Et on voit ça se reproduire encore et encore dans cette vie. On voit dans l'Ancien Testament comment les Israélites, quand ils étaient dans le désert, Dieu pourvoyait jour après jour pour la manne qu'ils avaient besoin, exactement les quantités qu'ils avaient besoin. Et maintenant, Dieu nous a envoyé le pain du ciel, son Fils Jésus, pour pourvoir à nos besoins à chaque jour. On doit compter sur lui à chaque jour pour être nourri. À chaque jour, on doit venir sur nos genoux et dire, « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour vivre pour toi. » Puis de savoir que c'est selon sa volonté qu'on se fait cette prière, on peut savoir qu'il répond. Il répondra certainement. On doit lui demander chaque jour, « J'ai besoin de toi, autant que j'ai besoin de mon pain quotidien. » Et Dieu veut bâtir cette relation-là de dépendance où à chaque jour, on peut venir à lui. « Je n'ai pas de provision, j'ai besoin de toi là. » On est complètement dépendant de lui. Lui, il est complètement indépendant de nous. Mais c'est dans son amour qu'il nous rend dépendants de lui, qui nous unit à son Fils, puis qui nous nourrit par son Fils. C'est en connaissant Dieu tel qu'il est qu'on peut s'approcher de lui en paix, sachant qu'il désire pourvoir pour nos besoins, sachant qu'il veut prendre soin de nous. En continuant au verset 12, le modèle de la prière de notre Seigneur continue ainsi. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Cette confession-là nous rappelle à quel point on a besoin de son pardon. Il n'y a pas une journée où on peut venir devant lui et dire « Aujourd'hui, ça a bien été, je n'ai pas péché. » Non. À chaque jour, on doit venir sur nos genoux devant lui et lui demander pardon. Il n'y a aucune manière qu'on puisse s'enorgueillir devant lui. On doit toujours rechercher sa grâce jour après jour. Je ne sais pas si ça vous a déjà frappé comment c'est phrasé. Le pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Personnellement, c'est quelque chose qui me fait trembler. Parce que je sais que mon cœur pécheur a tendance à vouloir retenir des choses contre les gens qui m'ont blessé. Mais au verset 14 et 15 du même chapitre, Jésus dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus nous enseigne avec quelle humilité on doit nous approcher de Dieu. Quelle piété on doit aussi entretenir dans notre vie en pardonnant ceux qui nous ont offensés. Puis, je veux juste ouvrir une parenthèse pour quelque chose qui pourrait peut-être embrouiller certaines personnes. Dieu n'est pas en train de dire qu'il nous pardonne parce qu'on pardonne. Dieu a envoyé, premièrement, son Fils sur la terre, mourir sur la croix pour nous pardonner. Et ensuite, de ce pardon gratuit qu'on reçoit, découle le pardon qu'on peut étendre aux autres. C'est le fruit que produit le pardon que Dieu nous donne. Puisqu'on a reçu gratuitement, offrons aussi gratuitement. J'aimerais vous lire le passage dans la parole et laisser Christ nous parler dans Matthieu chapitre 18, les versets 21 à 35. C'est une parabole que Jésus donne à ses disciples suite à une question de Pierre. Alors Pierre, s'approchant de lui, et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Et Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que sa dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois! » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Frères et sœurs, le pardon qu'on a reçu de Dieu est un pardon infini, un pardon qu'on n'aurait jamais été capable de repayer. Parce que la faute qu'on a contre Dieu est infiniment grande. Et cette faute est infiniment plus grande que la faute de quiconque pourrait faire contre nous. Alors, si Dieu nous a pardonné nos multiples et multiples offenses, on doit nous aussi pardonner à notre tour et remettre la justice entre les mains de notre Père. Et encore, si la personne qui nous a blessés est un frère ou une sœur pour qui le sang de Christ a été versé, pour effacer ses torts devant la face de Dieu, qui sommes-nous pour juger que le sang de Christ est insuffisant pour couvrir la peine? C'est la vie de Jésus qui a payé pour le rançon de ses péchés et de nos péchés. Alors confions-nous en lui, confions-nous dans notre seul Seigneur, dans notre seul Sauveur, dans le seul qui peut restaurer notre âme entièrement. On doit être comme lui, on doit être rempli d'amour, pardonner ceux qui nous ont offensés, parce qu'il nous a premièrement pardonné tous nos péchés. Il a tout accompli. Puis qu'est-ce que ça nous apprend sur notre Père, duquel on s'approche en prière? Bien, ça nous apprend que notre Père désire vivement nous accorder son pardon. Il sait de quoi on est fait. Il sait qu'on est des êtres faibles. Il sait toutes nos tendances. Il connaît notre cœur et il a compassion de nous. Quand le péché tente de nous envelopper, il voit les mensonges. Il veut nous appeler à la vérité. Il nous appelle à lui pour qu'en lui, on trouve le pardon complet de nos péchés, pour nous restaurer entièrement, pour nous permettre de vivre librement en lui. Alors, frères et sœurs, accourons à Dieu, accourons à notre Père dans la prière, sachant qu'il veut nous pardonner, il veut nous rendre purs. Humilions-nous devant lui et pardonnons en retour ceux qui nous ont fait du tort. Et demandons au Père de nous faire grâce et de venir nous transformer à son image. Notre Père veut réellement nous rendre libres du péché, nous rendre semblables à lui. Alors, laissons pas le péché venir nous détourner de ce si grand et merveilleux Père. Ce qui nous amène au verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. On sait que les tentations ne viennent pas de Dieu, comme on lit dans Jacques 1, 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ce n'est pas Dieu qui tente. Oui, Dieu permet à l'ennemi de nous tenter, parce que Dieu nous éprouve. Dieu vient éprouver notre foi pour la purifier. Comme on vient purifier l'or au travers de l'épreuve du feu, Dieu vient purifier notre foi au travers des épreuves. Et cette prière-là, ce qu'on voit, c'est l'homme faible qui s'approche de son Père et qui dit « Seigneur, viens me délivrer, parce que je sais que sans ta force, je ne peux résister. » On est complètement dépendant de Dieu et dans nos prières à chaque jour, on doit s'approcher de lui et dire « Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours, délivre-moi de ces tentations, délivre-moi des attaques du malin. » Et au travers de cette prière, on peut voir cette confiance que Dieu est puissant pour nous délivrer. Jésus a déjà vaincu, il a vaincu l'ennemi. Puis maintenant, on est en attente de voir sa victoire être manifeste aux yeux de tous. Et celui en qui on se confie, celui qu'on vient voir en prière, a la victoire. Il peut nous délivrer et nous garantit la victoire en lui. Donc, on doit s'approcher de lui avec cette confiance-là. Dire, « Seigneur, viens à mon aide. Délivre-moi de cette tentation-là. » Ce que ça nous apprend sur notre Père, c'est qu'il désire nous délivrer du malin. Il veut venir à notre secours, venir à notre aide au travers des tentations. Alors, approchons-nous de notre Père confiant. On peut venir dans la prière confiant. Peu importe les tentations, peu importe ce qu'on commence à alimenter, on peut tout de suite arrêter et dire, « Seigneur, je crois que tu peux et que tu veux me délivrer. Viens à mon aide. » Ce qui nous amène à la dernière partie de cette prière. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Comme j'ai dit au début du message, cette dernière partie-là consiste à confirmer que l'enfant de Dieu fait cette prière à son Père en reconnaissance de qui il est, en reconnaissance qu'il a la capacité d'accomplir, la capacité de répondre à cette prière. Alors, quand on dit « Je crois que tu peux me délivrer du mal et des tentations », car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Je crois que tu peux me pardonner de tous mes péchés que j'ai commis aujourd'hui, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Je crois que tu peux me donner aujourd'hui mon pain, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit accomplie dans tous les lieux, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Quelle grande vérité, frères et sœurs, de connaître notre Dieu, notre Père, ainsi. On peut s'approcher de lui en sachant qu'il a la victoire sur toute chose, que c'est à lui qu'appartiennent la puissance dans tous les siècles, dans le présent, dans le passé et dans le futur. Quand on prie notre Père, on le fait sachant qu'il a autorité, sachant qu'il a la capacité, la puissance d'accomplir toute chose et qu'il se glorifiera toujours en toute chose. On sait que Dieu a la victoire assurée. C'est ça que Jésus nous apprend sur notre Père dans cette prière. Prions en reconnaissance de sa grandeur, de sa puissance, et louons-le pour sa personne. Alors, en conclusion, en terminant, on a vu deux points aujourd'hui. L'enfant qui s'approche de son Père et l'enfant qui parle à son Père. On a vu que l'Éternel désire réellement avoir une relation personnelle avec chacun de ses enfants. Qu'il désire nous amener à l'écart pour qu'on vienne à lui sans aucune distraction. Pour qu'on puisse grandir dans cette relation-là, une relation personnelle, une relation intime avec notre Dieu. Ensuite, on a vu comment Jésus nous permet de connaître notre Père. Comment ça peut avoir un impact dans notre vie de prière? Parce que premièrement, il est notre Père qui nous aime tendrement. Il nous appelle à vivre suite à cet amour-là qui vient déverser sur chacun d'entre nous. Notre Père est dans les cieux. Il est inégalé par absolument rien au monde. Il est dans une catégorie complètement à part de tout ce qui existe. Puis il désire nous modeler à son image. Notre Père prend soin de nos besoins. Il est attentif à chacun d'entre nous. Il nous fait miséricorde et il est prêt à chaque jour à étendre sa main de grâce vers nous pour nous accorder son pardon. Il est puissant. Il est capable de nous délivrer des tentations et du mal qui nous entourent. Il peut toutes choses parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il règne éternellement et qu'il fera toujours tout concorder à sa gloire. Ce sont donc encore des manières que Jésus, notre Seigneur et notre Maître, notre intermédiaire avec le Père, nous permet de connaître notre Père. Approchons-le avec assurance, frères et sœurs, sachant qu'il est bon et tendre envers ses enfants. Si tu as péché contre lui, si tu t'es éloigné de lui dernièrement, viens à lui. Il est là, il t'appelle à lui. Va dans le lieu secret. Il te rencontrera. Il viendra pour te restaurer, car c'est à lui qu'appartiennent pour le siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Prions. Seigneur Jésus, quelle grâce tu nous fais d'être venu nous présenter notre Père, d'être venu nous montrer ta grandeur et ta gloire. Seigneur, quelle grâce tu nous fais de nous montrer ton amour envers nous malgré nos incapacités, malgré notre infidélité, malgré nos incapacités. C'est ton esprit qui nous transforme. Alors Seigneur, on veut s'attendre à toi. Oui, on te demande pardon pour nos péchés. On te demande pardon pour notre incrédulité quand on ne croit pas à ta parole. quand on ne croit pas que tu es suffisant pour toute chose. Seigneur, glorifie-toi, on t'en prie, dans la vie de chacun d'entre nous ce matin. Manifeste ta gloire.